Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi sur le podcast de Erdiwa, www.rdwa.fr. Actuellement aussi, vous pouvez écouter cette émission en podcast sur le site YouTube à la page de Erdiwa. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Monsieur Maxime Chaffotte. Bonjour.
Bonjour.
Maxime Chaffotte, vous êtes ici pour nous parler du diplôme d'État à la jeunesse, éducation populaire et sportive.
Voilà, du DEJEPS, donc diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport que nous animons à Montélimar depuis la première session, donc depuis l'année dernière.
Alors, ce dispositif est pris en compte par la FRAP, hein, dont vous êtes salarié. Donc, la FRAP, c'est Formation Recherche Action de Pédagogie Populaire. La FRAP existe depuis combien d'années ?
Alors, la FRAP, c'est une petite association. Hein, on est 3 salariés. C'est une association qui s'est créée en 2016 dans la vallée de la Drôme, hein, à Mirabel et Blacon. C'est une association qui travaille essentiellement sur le champ de la formation. Formation notamment sur les domaines de l'éducation populaire et qui intervient aussi en conseil, en appui de projets et de structures qui travaillent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, du travail social, de manière plus générale dans le domaine des transitions.
On peut rappeler un peu aussi aux auditeurs la notion de l'éducation populaire. Qu'est-ce que ça regroupe ?
Oui, alors l'éducation populaire, pour aller très vite, il faut remonter à la fin de la dernière guerre, hein, 1945, et la création du mouvement Peuple et Culture à Grenoble, qui est, je dirais, la référence en termes d'éducation populaire moderne en France. L'éducation populaire, les grands principes, c'est de pouvoir permettre de développer largement l'esprit critique et de favoriser toutes les actions d'auto-formation, c'est-à-dire de permettre à des populations de pouvoir se former par elles-mêmes.
Vous parlez d'esprit critique, vous en avez, vous enseignez les bases aussi de cet esprit critique qui se dédouane d'affirmations ou de mythes.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir lutter contre toutes les idées préconçues, contre tous les faux discours et donc de pouvoir développer une pensée dialectique, notamment entre les dimensions logiques et les dimensions éthiques. Alors, on utilise bien entendu une méthode et nous formons les gens à cette méthode. Cette méthode, c'est l'entraînement mental. Donc c'est une méthode qui est née dans les années 40 à l'école d'Uriage, hein, pas très loin d'ici, qui était l'école nationale des cadres et qui est devenue un des principaux foyers de la résistance par la suite. Voilà, donc c'est une méthode qui va permettre de distinguer les faits, distinguer les points de vue, aller chercher de l'information pour pouvoir se faire, une opinion la plus juste possible qui puisse permettre de passer à l'action, qui puisse permettre de développer des projets.
L'école d'Uriage a enseigné donc une certaine idée de l'administration, en quelque sorte. Ces personnes qui sont devenues résistantes par la suite se sont enrichies de ce discours de l'époque où l'État de Pétain était présent. Est-ce que c'était justement de connaître les outils propres de cet État de Vichy pour justement le retourner contre elle ?
Oui, c'est un peu ça. Disons que l'école d'Uriage est allée plus vite que que Vichy et que Pétain. Alors, bon, Vichy, hein, c'est très compliqué. On a Vichy, on a Paris hein, à cette époque. Et effectivement, l'école d'Uriage est arrivée très tôt après la défaite de 1940, partant d'un constat que la France était dans un état de déclin complet du point de vue idéologique, du point de vue politique, du point de vue de la jeunesse. Et donc ce projet d'école de cadre s'inscrivait complètement au départ dans l'idée de la révolution nationale de Pétain. Mais l'équipe d'Uriage, parce que c'est une équipe de formateurs, c'est une équipe d'instructeurs qui ont fait venir beaucoup de conférenciers, des intellectuels, je dirais, est allée beaucoup plus vite que la révolution nationale de Pétain et s'est positionnée dans le sens d'une révolution humaniste qui va ouvrir tout le courant social-démocrate après la guerre.
Voilà pour ce bref rappel d'histoire. Et donc, on se penche sur ce diplôme d'État jeunesse, éducation populaire et sport. Alors, ça permet d'abord à quelle personne s'adresse ce diplôme ?
Ouais. Alors, c'était anciennement, hein, c'était le diplôme qui s'appelait le DEFA, donc qui était le diplôme d'État de la fonction d'animateur. Donc, on est bien dans le champ de l'animation socio-éducative et culturelle. Je dirais que ça se destine à toute personne qui, en fonction de coordination, soit d'équipe, soit de projet, soit d'équipement ou de structure, qui touche à des publics jeunes, à des publics enfants, à des publics relativement larges dans l'animation de la vie sociale des territoires.
Votre implantation, vous êtes vous à Montélimar, mais est-ce qu'il existe diverses structures comme la vôtre à travers la France ?
Oui, oui, certainement, bien sûr, des diplômes d'État, des EGEPS, il y en a beaucoup en France. Il y avait aussi un problème, c'est que toute la zone Ardèche-Drôme était très mal couverte. C'est-à-dire que pour aller suivre ces formations, fallait aller soit à Lyon, soit aller à Avignon ou à Marseille. Donc, en partenariat avec le comptoir des lettres et Codevad, nous avons travaillé pendant plus d'un an, quasiment deux ans, pour monter cette formation qui donc a ouvert l'année dernière, en janvier 2020.
Cela veut dire qu'il y a eu un investissement, un soutien de collectivité aussi pour lancer ce diplôme d'État ?
Non, pas de soutien direct de collectivité. Un agrément qui a été donné par la DRAGES, hein, donc anciennement la cohésion sociale. Non, en fait, ce diplôme a été monté sur une armature qui existait déjà, qui était active sur Grenoble. Et du point de vue de Grenoble, la demande étant plus faible, le Codevad a décidé de délocaliser ce DEGEP, cette formation, sur Drôme-Ardèche.
Ce DEGEPS est une continuité du DFA, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut noter une différence entre ces deux ?
Oui, avec le DEGEPS, on rentre beaucoup plus aujourd'hui dans des fonctions de coordination. Hein, donc c'est ça l'essentiel, coordination de projet, coordination d'équipe, coordination de structure. Alors qu'anciennement, le DEFA préparait plutôt des directeurs de centres sociaux, classiquement. Hein. Aujourd'hui, on est beaucoup plus large. Ça peut être des chefs de projet sur des actions culturelles. Ça peut être des personnes qui travaillent justement dans des collectivités territoriales ou des personnes qui travaillent dans des MJC, des centres sociaux.
Vous recevez jusqu'à combien de personnes par session en formation ?
Alors, les sessions, en gros, on est sur environ 12 personnes. Hein. La session sur laquelle nous sommes en ce moment, là, qui va se terminer en septembre de l'année prochaine, c'est une session qui accueille aujourd'hui 9 personnes.
Donc là, ça se passe à Montélimar, parce que vous avez un établissement, vous avez un lieu pour vous. Je voulais savoir si vous pouviez envisager, par exemple, sur des formations groupées, vous déplacer pour produire ces formations ailleurs.
Alors, c'est un petit peu difficile parce que c'est une formation par alternance. Hein. Donc, les temps de formation s'effectuent à raison d'une semaine par mois. Et effectivement, il faut un lieu, je dirais, qui soit stable. Le choix de Montélimar s'est fait parce qu'on est proche de la vallée, donc ce qui est un avantage en termes de déplacement. Et puis on est à mi-parcours entre la Drôme et l'Ardèche. Alors les locaux, nous sommes dans les locaux du centre des Carmes. Donc c'est des locaux qui appartiennent à la municipalité de Montélimar. Et donc nous avons passé une convention d'utilisation de ces locaux.
Alors, on peut peut-être amener un peu plus en profondeur le contenu de cette formation. Ouais. Comment ça se produit d'abord ?
Alors, c'est une formation qui est structurée en quatre unités de compétences. Hein, on appelle ça les UC. Donc, la première unité de compétences concerne le thème de la conception d'un projet d'action. La deuxième unité de compétences concerne la coordination et la mise en œuvre de projets d'action. La troisième unité de compétences concerne le thème de la conduite des démarches pédagogiques, donc des démarches à visée socio-éducative. Et la quatrième unité de compétences concerne l'animation d'une activité, la mise en œuvre d'une activité pédagogique dans les conditions de sécurité réglementaire, bien entendu.
Alors, un mot qui arrive un peu souvent, c'est coordination. Ouais. Ça, c'est la nouveauté par rapport au diplôme de formation d'animateur. Oui. Pour vous, cette coordination comprend quelles idées ? Est-ce que ça se déroule juste au niveau d'une structure qui utilise un animateur ? Ou alors c'est aussi de partager ou essayer de trouver des partenariats ?
Exactement. C'est très large. Hein. Coordination, c'est, comme je disais, ça peut être une coordination d'équipe, ça peut être une coordination d'équipement, ça peut être une coordination de projet. Donc forcément, qui dit coordination dit partie prenante. Et la dimension partenariale est très importante dans cette formation des EGEPS. Alors, ça peut être des partenariats locaux avec d'autres structures, comme ça peut être des partenariats avec des institutions, des administrations ou des territoires. Donc la dimension partenariale et de travail en réseau est essentielle dans cette formation.
Par exemple, on peut citer peut-être un type de personnes qui viennent chez vous, issues peut-être d'un petit village ou une petite ville.
Oui, alors on a plusieurs stagiaires qui sont aujourd'hui déjà en poste de coordination, qui sont coordinateurs enfance jeunesse, notamment du côté de la Voulte, du côté du Pouzin, du côté de Valence. Voilà, on a des personnes qui viennent d'horizons relativement variés. La personne qui vient de la zone la plus lointaine, c'est les Hautes-Alpes. Et c'est une personne qui travaille pour le comité d'entreprise d'EDF, la CCAS, donc pour toutes les actions sociales, socio-éducatives et culturelles de ce comité d'établissement.
Par rapport à cette coordination, est-ce que pour vous, cette inclusion de la notion de coordination dans cette formation, ça la pallie aussi aux constatations que l'on peut faire justement sur certains territoires où beaucoup de choses se font et peut-être pas comme il faudrait ?
Alors. Oui, d'une part, effectivement, surtout sur des territoires comme la Drôme et l'Ardèche, hein, donc qui sont des territoires relativement vastes, avec des densités de population parfois relativement faibles. Et c'est sûr que dès que des initiatives socio-culturelles vont être mises en œuvre, elles vont nécessiter de pouvoir communiquer sur les territoires. Ensuite, la coordination vient aussi aujourd'hui de l'organisation des politiques publiques. Hein. La plupart des actions culturelles ou à vocation sociale relèvent de financements publics. Et les financements publics, les financeurs aujourd'hui, sont en attente d'avoir justement des interlocuteurs en fonction de coordination sur des projets ou sur des thèmes sur les territoires.
Le diplôme d'État, quelle garantie amène-t-il pour son possesseur ?
Eh bien déjà, c'est un diplôme professionnel qui est reconnu par la formation professionnelle. Donc c'est un diplôme Bac plus 2 qui va pouvoir garantir à son titulaire justement de pouvoir postuler sur des postes du type chargé de projet culturel, chargé de mission jeunesse, coordinateur enfance jeunesse, ou alors permettre aussi à des personnes d'évoluer dans leur structure, au sein de leur structure, et d'avoir des postes à plus haute responsabilité.
L'animation, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui s'y passe en France ou peut-être en Drôme-Ardèche. En quel état est-il actuellement ?
Ben, je dirais que c'est globalement, c'est pas brillant, hein, comme tout ce qui relève et ce qui est dépendant de financement public. Hein, donc la logique gestionnaire est très fortement présente. Pour autant, les initiatives sont très nombreuses. Souvent, c'est des initiatives citoyennes qui ne sont pas forcément institutionnalisées dès le départ. C'est entre autres la vocation des centres sociaux et des maisons de la jeunesse et de la culture, des MJC, que de pouvoir dynamiser ces initiatives. Bien entendu, on n'est pas, c'est pas un secteur marchand, c'est pas un secteur qui va faire du bénéfice. Et c'est un secteur où les moyens sont de plus en plus comptés à l'heure actuelle. Pourtant, c'est un secteur clé parce que c'est en grande partie sur ce secteur que repose l'animation de la vie sociale dans les quartiers, dans les territoires, voire dans les territoires les plus éloignés.
On est en carence d'animateurs à l'heure actuelle ?
Je pense pas que ce soit des métiers en très forte tension. Il n'y a pas de carence. Bien que, en discutant hier soir avec mes collègues de la Frappe, depuis le Covid, depuis la crise du Covid, il semblerait qu'il y ait des personnes qui étaient justement en poste d'animation qui ont choisi de quitter ces postes. Et il commence à y avoir des postes à pourvoir dans ce secteur, oui.
L'animation, cela comprend, on peut parler de centres de vacances, mais il y a aussi la vie au quotidien tout au long de l'année. Donc une présence aussi de l'adulte avec les jeunes pour les guider quelque part ou les inspirer aussi.
Tout à fait. Alors, l'animation, c'est pas non plus que les jeunes. Hein. C'est ce qu'on en voit le plus souvent. Le plus souvent, ce qu'on voit, c'est l'ancienne colonie de vacances, hein, qui est une part des activités des centres sociaux et des MJC. C'est pas, je dirais, non plus la part dominante. Hein. Il y a tout le secteur donc enfance-jeunesse, hein, l'accueil périscolaire, les activités culturelles, les activités sportives que peuvent proposer un centre social. Et puis, il n'y a pas que la population jeune. C'est-à-dire qu'un centre social et une MJC peut-être dans une moindre mesure, mais s'adresse à une population globale. C'est-à-dire la mission, c'est bien une mission d'animation de la vie sociale sur un territoire. Donc ce n'est pas une population qui est cantonnée à l'enfance et la jeunesse. Et beaucoup d'activités de centres sociaux s'adressent à des personnes adultes, à des personnes âgées, à des collectifs citoyens de manière large.
En parlant d'animation, à l'adresse des adultes, quelles sont les possibilités actuellement de trouver un emploi ou un poste au moins ?
Alors, les emplois les plus courants vont être des emplois d'animateurs dans des centres sociaux, dans des MJC. Mais c'est là aussi où on a une différence peut-être avec l'ancien DEFA qui était très axé sur ce type de structure. Aujourd'hui, le DEGEPS voit beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'une personne titulaire d'un DEGEPS peut tout à fait prendre un poste de coordinateur d'une mission culturelle sur un territoire, coordinateur d'un projet à vocation culturelle, institutionnelle ou pas. Hein. Donc on dépasse le simple champ de l'animation. Hein. On est vraiment dans, je dirais, une animation, mais au sens large, animation de la vie sociale.
Voilà, je revenais sur cette question par rapport aux adultes et aux personnes âgées, hein, on peut les inclure. Oui. Et justement, il y a une manière différente d'aborder un jeune, un adulte ou une personne âgée dans la prise de contact.
Forcément, bien sûr. Et puis là, on aborde la question des pédagogies. Donc, on ne va pas aborder un public, je veux dire, de la même manière. Il y a des précautions pédagogiques à avoir. Il y a des méthodes, il y a des connaissances du public. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir mixer les publics, c'est-à-dire de pouvoir faire des actions intergénérationnelles qui mixent des publics jeunes avec des publics plus âgés. Mais là, oui, là, tout est question, je dirais, et de pédagogie, et d'art et de savoir-faire de l'animateur.
Alors, cet enseignement de la pédagogie, ça se procède parmi ces quatre cycles hein, que vous proposez. Oui. C'est lequel ?
Alors, la pédagogie, elle va rentrer dans l'unité de compétence numéro 1, donc coordonner un projet, mais elle est indexée, je dirais, administrativement sur cette unité de compétence, mais elle est présente dans les quatre autres unités de compétence. Elle est très fortement présente dans la dimension d'alternance, c'est-à-dire que tous les gens que nous avons en formation sont en poste, hein, sont donc salariés d'une structure, ont des responsabilités et effectuent des activités pédagogiques au quotidien. Alors bien sûr, dans la formation, il y a un contenu, il y a un contenu de formation sur les différents courants pédagogiques, sur les différentes modalités pédagogiques, de façon à permettre aux stagiaires d'avoir des repères et de pouvoir identifier les pédagogies qu'ils mettent en place et de pouvoir les parler, de pouvoir les nommer.
Vous parliez de pédagogie. Il est établi comment ce système de pédagogie ? Quels en sont les teneurs précisément ?
Alors, au niveau de l'enseignement du DEGEPS, la pédagogie, elle est abordée notamment dans une intervention qui dure une journée, qui passe en revue les grands courants pédagogiques, l'histoire des grands courants pédagogiques, et qui s'attarde sur les pédagogies des opprimés. Hein, qui, je pense notamment aux travaux de Paolo Freire, sur la pédagogie des opprimés qui semble être une pédagogie intéressante justement à développer pour pouvoir dynamiser, pour pouvoir animer la vie sociale sur des territoires. Pédagogie d'autant plus intéressante aussi dans des quartiers défavorisés. Voilà, mais je dirais l'idée c'est de pouvoir donner aux stagiaires un panel de connaissances de ce qui existe en termes de pédagogie de façon à pouvoir repérer leurs pratiques, nommer leurs pratiques, éventuellement influencer leurs pratiques, et puis avoir un focus justement sur ces pédagogies de l'opprimé qui rentrent là pour le coup complètement dans la logique d'éducation populaire.
Les personnes qui viennent vous voir en formation, vous disiez la plupart sont en poste.
Tous.
Actuellement, tous. Oui. Vous avez tenté aussi une approche pour les demandeurs d'emploi en recherche de formation également ?
Alors c'est très compliqué parce que une des conditions d'entrée au diplôme est justement d'être en poste de coordination. Donc ça implique que la personne soit en activité. Alors éventuellement, elle peut être en activité, je dirais, de manière bénévole, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle puisse rendre compte d'au moins 30 heures de travail de terrain par semaine. Donc c'est une formation qui se fait sur le principe de l'alternance.
Cette formation rentre en ligne de compte des exigences du CPF, hein ?
Oui, tout à fait. Donc c'est une formation professionnelle hein, qui est reconnue par une qualification professionnelle. C'est une formation d'un volume de 814 heures théoriques, dont 30 heures en accompagnement individualisé des stagiaires par un formateur. Alors, au niveau du coût, le coût de la formation, le coût total de la formation est de 8 500 €, auquel il faut rajouter 20 € pour les frais de sélection. Et là, plusieurs voies de financement. Hein. Soit les personnes peuvent financer tout ou partie de la formation par le compte personnel de formation, le CPF. Bon, rarement, on a des CPF d'un montant de 8 500 €. La plupart du temps, les structures employeuses permettent de financer tout ou partie de la formation sur le plan de formation interne.
Et, il y a eu cette réforme aussi ces derniers temps de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez pu vous rester établi dans ce cadre de formation professionnelle ?
Ah bah de toute façon, on est tenu de respecter ce cadre et notamment là dans les jours qui viennent, là dans le mois qui vient, nous allons passer l'habilitation Calliope, donc qui nous permettra d'être reconnu comme organisme de formation agréé dans le cadre effectivement des nouvelles dispositions de la formation professionnelle.
La FRAP travaille exclusivement donc en formation pour des personnes salariées.
Alors, le DEGEPS, la FRAP n'est qu'un des trois partenaires du DEGEPS. Hein. Le DEGEPS, c'est le CODEVAD, c'est le comptoir des lettres et la frappe. Alors effectivement, la frappe intervient sur des contenus de formation du DEGEPS, notamment la question des pédagogies, le travail en partenariat, en réseau, la question des budgets aussi, de savoir monter et piloter un budget. Donc on intervient sur plusieurs contenus de formation et on intervient également dans le suivi des stagiaires. Voilà, donc ça c'est principalement moi qui m'en occupe de la frappe et donc j'ai en charge le suivi individualisé de 3 stagiaires.
À la suite de ces personnes que vous avez auparavant formées, est-ce que vous maintenez une relation et voire même un intérêt de ces personnes à revenir et peut-être même d'être actif au sein de la frappe ?
Alors pour l'instant, on n'a pas le recul pour pouvoir le dire parce que la formation n'est pas finie. Hein. Ce qui est certain, c'est que cette formation contribue à tisser du réseau. Déjà, rien contre entre les stagiaires. Les structures, la plupart du temps, se connaissent sur les territoires. Mais entre les stagiaires qui travaillent des fois sur des territoires relativement proches, effectivement, ça permet de développer une interconnaissance qui va favoriser des relations de réseau par la suite, peut-être des partenariats. Effectivement, peut-être que certains stagiaires reviendront voir la frappe pour des formations particulières que nous organisons aussi.
Vous parlez de certaines localités où les structures se connaissent, où les personnes croisent. Est-ce que vous opéreriez aussi des ramifications au-delà d'une localité interdépartementale, par exemple ? Est-ce que ça, c'est aussi une possibilité ?
Bien sûr, et ça serait, un espoir que de pouvoir développer des dynamiques interdépartementales. Bon, cela dit, il existe déjà des dynamiques interdépartementales, notamment autour de la jeunesse. Hein. Je pense au portail informatique bidépartemental InfoJeunes. Donc, il existe plusieurs initiatives. Je pense notamment aussi au centre social MJC de la Voulte, qui travaille pas mal aussi avec la Drôme sur des projets culturels. Les relations vont se tisser. Hein. Il y a juste le Rhône à traverser. Alors après, bien sûr, on va dépendre de 2 conseils départementaux différents, hein, donc 2 politiques différentes, notamment sur la question de l'insertion, sur la question des jeunes.
On passe aussi au sport, hein, puisque ça, c'est une des possibilités. Ça se résume en quoi par rapport à cette formation sportive ?
Alors pour nous, ça ne se résumera qu'au titre. C'est-à-dire que le DEGEPS est un diplôme qui embrasse très largement tout ce qui est l'animation, la jeunesse et le sport. Donc nous, on n'a pas une vocation typiquement sportive. Nous, le DEGEPS que nous proposons a une spécialité, c'est l'animation socio-éducative ou culturelle. Et dans cette spécialité, on a une mention particulière qui est le développement de projets de territoire et de réseau. Donc la question du sport n'est quasiment pas abordée, je dirais. Hein. Elle n'est pas abordée en tant que telle. D'autres structures proposent des DEGEPS très axés sur le sport. Je pense notamment au CREPS.
Vous parlez de personnes donc, qui viennent en formation, qui sont en poste, dans des activités peut-être déjà engagées sur ce domaine, et qui viennent de villes ou de villages un peu éparses. Comment pouvez-vous peut-être répondre à la personne qui vient en fonction de son territoire ? Est-ce que vous lui demandez, par exemple, ce qui existe sur son secteur, de manière à pouvoir conjuguer tout ça ou articuler plutôt ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une première étape, dès le début de la formation, qui est l'étape du positionnement. Donc, on demande à chaque candidat de se positionner par rapport à la formation, mais au regard justement de ses attentes, de ses fonctions actuelles et du territoire sur lequel il se situe et bien entendu de la structure dans laquelle il travaille. Ensuite, dès que la formation débute, le premier chantier des stagiaires est d'établir un diagnostic. Donc un diagnostic et de la structure et du territoire, ce diagnostic conduisant par la suite à l'élaboration et au développement d'un projet.
Vous donnez les clés pour diagnostiquer ?
Oui, bien sûr.
Voilà, bon, c'est des questions naïves, mais c'était juste pour savoir.
Toutes les clés méthodologiques et en plus de ça, dans le cadre des accompagnements individuels, en tant que formateur, nous pouvons accompagner individuellement chaque stagiaire dans l'élaboration de son diagnostic et les particularités que celui-ci comporte.
Maxime Chaffaut, votre vocation, c'est donc l'animation, l'enseignement de l'éducation populaire en premier lieu ?
En premier lieu, c'est la formation. Mon métier, c'est le métier de formateur. Je ne viens pas directement de l'éducation populaire. Moi, je viens de l'éducation spécialisée, du travail social. Et depuis quelques années, depuis la création de la FRAP, effectivement, je m'intéresse de plus en plus à l'éducation populaire. Et je pense qu'à terme, il y aurait des pontages très intéressants à faire entre le travail social classique, hein, l'éducation spécialisée, je pense, et l'éducation populaire.
Pour vous, la création de la FRAP répondait à une nécessité ?
Alors, la création de la FRAP, oui, répondait à une nécessité, je dirais, de territoire, d'apport de formation sur l'éducation populaire. C'est-à-dire que la Drôme, l'Ardèche, compte beaucoup de structures qui s'inspirent de l'éducation populaire, qui mettent en place des projets d'éducation populaire. Pour autant, très peu de structures forment à l'éducation populaire. Mais ça n'est pas que la seule vocation de la FRAP. La FRAP aussi intervient, comme je disais précédemment, intervient en conseil, en appui de projets, de structures locales, voire au-delà du local et au-delà du régional.
Ces formations, il y en a une actuellement hein, qui est en cours. Oui. Quelles sont les prochaines dates pour une nouvelle session ?
Oui, alors nous venons d'avoir l'agrément, l'autorisation d'une deuxième session. Donc, alors pour la deuxième session, la date limite d'inscription est fixée au 29 octobre de cette année, hein, 29 octobre 2021. Les épreuves de sélection sont prévues le 8 novembre, hein, toujours de cette année, de 2021, pour un début de formation en janvier 2022. Et c'est une formation qui se terminera à la mi-décembre 2023. Donc effectivement, une deuxième session pour laquelle nous avons encore des places. Donc pour les gens intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher du CODEVAD ou de la FRAP sur les sites internet. Tous les documents, tous les dossiers sont téléchargeables pour pouvoir s'inscrire.
Il y a des facilités d'hébergement pour les personnes qui viennent sur Montélimar, par exemple, ou comment vous leur donnez quelques conseils, peut-être ? Parce que je voulais savoir, vous faites des sessions qui durent une semaine, par exemple, ça nécessite un hébergement. Comment est-il envisagé ou comment ça se passe actuellement, peut-être ?
Alors, la question de l'hébergement se pose pour une seule stagiaire, c'est-à-dire que pour tous nos autres stagiaires, ils peuvent tout à fait venir se déplacer tous les jours, faire l'aller-retour. Effectivement, pour une stagiaire qui vient de la région de Gap, il a fallu qu'elle trouve un hébergement. Elle a choisi la solution de l'hôtel. Alors, nous, bien sûr, on peut orienter vers des petits gîtes, des chambres d'hôtes, mais il n'y a pas de prestation d'hébergement dans le diplôme.
Pour s'inscrire, il y a un site internet ?
Oui. Alors, soit le site du CODEVAD, CODEVAD, soit sur le site de la FRAP, tous les renseignements, tous les documents sont présents.
Maxime Chaffaut, je vous remercie d'être venu nous parler donc du DGEPS, et ce pour le cadre de la FRAP. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir.